Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans le débat du jour sur RFI. En ce moment, promenez-vous du côté de Villeneuve-le-Roi ou de Paris Vieille Poste, à quelques encablures de Paris, et vous serez surpris. Vous entendrez le piaillement des oiseaux. Depuis près de 3 mois, en effet, ce sont les seuls à voler au-dessus des pistes de l'aéroport d'Orly. Et ce n'est que dans une semaine qu'ils recommenceront à être dérangés par quelques oiseaux de fer. Le débat du jour consacré aujourd'hui à cette bombe atomique appelée Covid-19 qui a décimé le trafic aérien. L'IATA, qui regroupe les compagnies aériennes du monde entier, parle d'ailleurs de la pire crise de l'histoire de l'aviation. Le compte à rebours, tant attendu, est enclenché. Le trafic va reprendre maintenant à Orly dans 7 jours. Mais comme pour tous les autres déconfinements, cela va se faire de manière très progressive. Alors à quel rythme précisément? Quelles destinations sont-elles concernées? Quelles compagnies vont faire revoler leurs avions? Le peuvent-elles encore d'ailleurs? Moribond, le transport aérien peut-il ressusciter? Si oui, à quelles conditions? Comment l'avion de ligne peut-il se réinventer? Autant de questions à débattre ce soir avec vous. Alain Battisti, bonsoir. Alain Battisti, vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Vous présidez la Fédération nationale de l'aviation marchande qui regroupe combien de compagnies aériennes françaises d'ailleurs?
Eh bien, aujourd'hui, nous regroupons 95% des compagnies aériennes françaises, c'est-à-dire les plus grandes, bien sûr, Air France, ses filiales, mais aussi Air Caraïbes, French Bee ou encore Corsair.
Et la vôtre également, puisque vous présidez par ailleurs la compagnie régionale Chalair. Bonsoir Thomas Jouin.
Bonsoir.
Vous présidez l'UAF, l'Association des aéroports français et francophones, associés comme ceux de Montréal, d'Alger ou d'encore Abidjan. Combien de plateformes aéroportuaires commerciales cela concerne-t-il?
Sur nos 150 membres, on a à peu près une bonne cinquantaine d'aéroports commerciaux donc qui reçoivent des lignes régulières.
Sachant qu'Aéroport de Paris, qu'on cite très souvent, bien évidemment, représente à peu près la moitié des 206 millions de passagers qui transitent par les aéroports français tous les ans. Yann Kochnet, bonsoir.
Bonsoir.
Yann, rédacteur en chef du magazine de référence Caire et Cosmos, disponible en kiosque et sur Internet. Votre une cette semaine?
La une cette semaine, c'est l'usine du futur, parce que la vie continue, il y a bien sûr la crise, elle est violente, c'est un séisme de magnitude 9, mais l'industrie aéronautique est toujours là, le transport aérien est toujours là, il y a toujours un filet de vie, il y a encore des avions qui volent, malgré les contraintes, et donc les investissements se poursuivent, les projets se poursuivent, que ce soit en France, en Chine, aux États-Unis, bref, il ne faut pas rappeler ça, que la vie continue.
Alors la vie continue à tel point qu'aujourd'hui, un 777, un Boeing d'Air France s'est posé à Shanghai, premier vol commercial régulier d'une compagnie européenne vers la Chine depuis plusieurs mois. Illustration que l'heure est donc au déconfinement dans le transport aérien également, même si ce vol est unique, une fois par semaine seulement pour l'instant. Alors vous qui nous écoutez avez sans doute des fourmis dans les jambes, des envies de voyage au long cours, mais vous ne pourrez pas aller bien loin. Quels sont les vols qui vont reprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, Alain Battisti, pour ce qui est de la France? Exemple Chalair, vous avez fait Bordeaux-Brest lundi dernier, et la suite?
Oui, alors ma compagnie est une compagnie qui est régionale, et donc effectivement on a débuté modestement entre Bordeaux et Brest, mais également entre La Rochelle et Lyon. Peu de passagers, à vrai dire, même si les passagers qui étaient à bord de nos avions avaient une vraie raison d'y être, souvent une raison professionnelle ou une raison personnelle impérieuse, parce que le besoin continue d'exister, effectivement. Maintenant, ce qui domine, c'est quand même la peur de voyager. Donc la demande, globalement, est assez faible, même si elle est croissante, et ce qui augure, évidemment, d'une reprise qui va être très progressive, vraisemblablement assez lente. Et pour pouvoir offrir des vols, il faut avoir un marché. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Nous sommes à la recherche de nos clients. Nos clients sont à la recherche également d'une offre. Et c'est de combiner cette offre et ce besoin progressivement dans les semaines, enfin les jours d'abord, les semaines et les mois qui sont devant nous, avec quand même un symbole très important à partir de la fin de la semaine prochaine, la réouverture d'Orly.
Oui, alors donc ce sont les vols au départ d'Orly, au départ de Roissy Charles de Gaulle, hein, qui n'a jamais arrêté, même s'il était quasiment en léthargie, en mort clinique ces derniers mois. Justement, puisque vous représentez l'Association des aéroports français, Thomas Juin, ce sont donc des vols domestiques pour l'instant. L'Europe, ça reprend quand? Au-delà du week-end?
Écoutez, en effet, comme on dit, step by step, donc les vols domestiques ont repris, en effet, comme le disait Alain, avec une offre qui s'adapte au mieux par rapport à une demande qui est fébrile pour le moment, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le gouvernement français avait en effet eu cette stratégie qui est la bonne, c'est-à-dire d'ouvrir au plus vite l'espace Schengen. Donc là, on y arrive, puisque les vols peuvent opérer à l'intérieur de l'espace Schengen, avec quelques situations encore à régler, notamment l'Espagne qui avait mis en place une quatorzaine, même si ce n'est pas l'espace Schengen, le Royaume-Uni qui est un marché important également. Donc voilà, un réglage qui est à faire, mais qui est en train de se faire. Et puis l'extra Schengen qui devrait réouvrir, mais alors au cas par cas, j'ai envie de dire, avec les pays. Et bien sûr, on attend avec impatience la réouverture de tout ce qui est au sud de l'Europe, puisque c'est un marché essentiel, le marché nord-sud, et notamment aussi pour Orly, mais également pour l'ensemble des aéroports. Donc voilà, on est sur du court terme maintenant, mais avec des incertitudes fortes quant à la coordination entre les pays, puisque c'est un élément essentiel, hein. Si vous réouvrez les vols, mais que vous mettez une quatorzaine, autant vous dire que les compagnies tiendront pas très longtemps. Donc,
Oui, parce que
cette
plus personne
coordination
n'a
sanitaire,
intérêt
bah oui.
à venir atterrir à Paris ou à Roissy, à se retrouver pendant 2 semaines à
Ouais.
l'hôtel, ce qui est certainement bien
Ouais.
inférieur au temps que la personne, si c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, veut consacrer justement à régler les affaires de son entreprise en 1 ou 2 journées. Donc, vol domestique, vol européen. L'international, c'est-à-dire le long courrier au-delà de 3 heures, 4 heures de vol, ça c'est vraiment pas pour tout de suite, hein. Yann Kochenek, derrière Cosmos.
Non, et pourtant les réservations affluent. On a par exemple, je donne un exemple, de fortes communautés laotiennes, cambodgiennes, vietnamiennes en France. Pour eux, il faut absolument que le Paris-Bangkok puisse réouvrir, hein, ou le Paris-Hanoï aussi, hein, puisqu'ils ont de la famille là-bas encore. C'est une forte communauté. D'ailleurs, les avions étaient pleins en termes de réservations. Il n'attend plus maintenant qu'on les relance, que les compagnies aériennes les relancent et qu'elles soient en capacité de le faire. C'est-à-dire, comme le soulignait très bien M. Join, que la peur change de camp et que les gouvernements mettent en place des contraintes sanitaires suffisamment légères pour que tout le monde puisse voyager dans un avion 9 heures de suite,
Et avec
voire même 12 heures.
l'idée de réciprocité, je parlais de ce vol qui a atterri aujourd'hui d'Air France à Shanghai, Alain Battisti. Il y a quelques vols à l'international aujourd'hui, mais ça ne se fait pas dans l'idée de la réciprocité, notamment entre la France et la Chine, par exemple.
Oui, c'est une question évidemment pertinente. Trois vols opérés par des compagnies chinoises cette semaine sur Paris, un seul vol autorisé par le gouvernement chinois à Air France. Donc c'est un déséquilibre qu'il convient de corriger. Et c'est très important de le faire rapidement. Donc ce sont les diplomates aujourd'hui qui aident les aviateurs à régler ce genre de problème. Maintenant, la reprise elle va être lente, c'est vrai, notamment sur le long courrier. Où allons-nous aller? Là où effectivement il y a le plus de besoins, on évoque l'Asie, mais ça concerne également l'Afrique, où les besoins sont importants. Il y a une volonté forte, de rejoindre, notamment l'Afrique subsaharienne. Ce qui redémarre de façon plus significative, ce sont les vols vers les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer,
Là
les
où là on est à
Antilles.
cheval finalement entre le domestique et le long courrier quelque part. Le domestique puisque c'est la
Voilà,
France bien évidemment et le long courrier parce que c'est 8-9 heures de vol.
c'est la France XXL, c'est celle de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de l'océan Pacifique. Là, les
Donc là
vols
ça peut aller
commencent
plus rapidement?
Oui, aujourd'hui, on a 3 à 4 vols par semaine vers ces différentes destinations, avec une harmonisation progressive des conditions de traitement des passagers à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes conditions d'acceptation des passagers à l'île de la Réunion, par exemple, qu'à la Guadeloupe. Et concernant l'international hors la France XXL, normalement, l'ouverture des frontières, en tout cas côté français, devrait s'opérer à partir du début du mois de juillet. Et on devrait avoir une libéralisation des vols long courriers à partir du 12 juillet. Donc le gouvernement français établit actuellement une carte du monde qui est une forme de cartographie du virus. Et c'est une cartographie fondée sur une analyse pas seulement statistique, mais sur une analyse pragmatique qui va en gros classer les pays en trois catégories, une, deux, trois. Et en fonction de cette carte, il y aura possibilité de recréer des liaisons internationales entre la France et les pays les mieux classés. Et évidemment, ce classement, c'est un classement sanitaire. Voilà.
C'est ce dont vous avez parlé il y a de cela une demi-heure avec le ministre, le secrétaire d'État au transport, juste avant le débat du jour. Vous étiez avec lui.
Effectivement, il y a quelques minutes, nous étions avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari et nous avons débattu de ces questions parce qu'il est effectivement important de recréer une connectivité importante, à la fois pour des raisons économiques, parce qu'il y a des entreprises, il y a des besoins d'échange plutôt à caractère économique qui sont fondamentaux et qui ont été interrompus maintenant depuis bientôt 4 mois. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des raisons personnelles de voyager pour retrouver les leurs. Quelquefois, pour aller enterrer les leurs, ils n'ont pas pu faire leur deuil parce que les familles ont vécu des événements compliqués. Et tout ça, ce sont des vrais besoins. Je crois que c'est dans la nature humaine d'aller à la rencontre de l'autre. Et là, il y a des raisons importantes qui peuvent pas être, qui aujourd'hui sont empêchées, quoi. Donc,
vous parliez, Alain Battisti, il y a de cela quelques instants de l'Afrique, justement. Comme nous sommes sur Radio France Internationale, il est intéressant de s'y arrêter quelques instants. Yann Kochnek, ça peut aller vite la reprise des vols vers l'Afrique et de l'Afrique vers les autres pays?
Écoutez, enfin, normalement, ça devrait revenir très vite parce que quand je vois le cocktail de mesures que l'on prend, que l'on a pris, que l'on va prendre pour justement protéger le passager du moindre virus ou de la moindre bactérie, que ça soit à son arrivée à l'aéroport, au moment de son enregistrement, quand il est dans l'avion, parce que bon, la lutte antivirus, l'aviation, elle y travaille depuis des décennies, elle a des systèmes de recyclage d'air permanent, elle a du filtre, enfin, même les toilettes, vous avez des sortes de plastique antibactérien, enfin bref, c'est impressionnant. Et alors du coup, y a un virus qui s'appelle un virus mou en plus, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un virus de type Ebola ou qui vous met tout ça en l'air. Parce que M. Battisti utilisait le vrai mot au début de son intervention, c'est le mot peur. On nous a mis dans un climat anxiogène depuis 2 mois. Tout le monde a réagi, enfin, je parle de la filière, tout le monde s'est mis en place pour rassurer. Et voilà, il n'y a aucune raison de ne plus reprendre l'avion. Enfin, il faut qu'on sorte. Mais par contre, il faut continuer en effet. Soyons pas non plus complètement inconscients, il faut continuer à respecter les gestes barrières. De toute façon, tout est fait maintenant pour que les gestes barrières soient respectés, puisque vous aurez votre giclée de gel une fois arrivé à l'aéroport, vous pourrez regicler les mains une fois passé l'enregistrement, et ainsi de suite, et même en arrivant à l'avion, vous allez vous prendre une regiclée de produits, ce sera la quatrième ou la cinquième entre votre arrivée à l'aéroport et votre installation dans l'avion. Je vais vous dire, avec ça, on est plutôt parti pour s'abîmer les mains tous au fil des semaines.
Thomas Join, justement, puisqu'on parle des aéroports, l'aéroport est la porte d'entrée dans l'avion. Vous présidez donc l'Association des aéroports français et francophones. Vous n'attendez pas le déconfinement pour avoir mis ces mesures en place. Est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes pour venir à bout de cette peur, justement, qu'ont les passagers de remonter dans un avion?
Écoutez, moi je ne suis pas en effet très inquiet sur le fait que les passagers vont assez rapidement se rendre compte que ils ont affaire à un secteur qui est extrêmement préparé à assurer la sécurité de ses passagers. Je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que nous allons peu à peu, en effet, rentrer dans un nouveau mode, hein, puisque même si la pandémie commence à être contrôlée, en tout cas au niveau français-européen, et bon, on s'installe dans une situation quand même qui a été très marquante. Donc le secteur s'adapte et saura, comme après le 11 septembre 2001, faire face à cette situation et adopter des mesures qui vont bien. Donc on a des atouts très importants, c'est qu'on a un personnel, que ce soit d'ailleurs dans les avions, mais aussi au sol, qui est très préparé à tout ce qui est lié à la sécurité. Et là, ça en fait partie.
Donc il faut restaurer la confiance, c'était oui. Restaurer la sécurité après les attentats du 11 septembre, maintenant c'est restaurer oui. La confiance sanitaire. On parlait de la cabine, dites-moi si je me trompe, dans une cabine qui est pourtant un endroit clos, on peut penser que c'est un nid à bactéries, or le renouvellement de l'air se fait toutes les 3 à 4 minutes, c'est ce qu'on appelle la filtration EPA, qui est finalement la filtration qui est utilisée dans les salles d'opération chirurgicales, donc à la Baptistère. Il y a une meilleure qualité de l'air que dans un hôpital, parce qu'on pompe l'air en plus à 10 000 mètres d'altitude et pas au ras de la planète.
Oui, en effet, on a la sécurité, c'est l'ADN de l'aviation et la sécurité sanitaire existe déjà dans l'aviation depuis plusieurs décennies. Une première alerte, souvenez-vous, avait eu lieu il y a maintenant une quinzaine d'années avec la crainte du SRAS. Et à l'époque, on avait modernisé tous les avions avec notamment ces systèmes de filtration qui sont les mêmes que ceux des salles blanches et des salles chirurgicales. Donc effectivement, on a un niveau de protection qui est très élevé à travers la filtration, les gestes barrières avant l'embarquement, le port du masque obligatoire dans les avions. Ça, c'est très important et j'ai encore un ami médecin qui me redisait il y a quelques minutes que le fait de porter un masque supprimait 95% du risque de transmission par voie orale, donc par l'aérosol. Donc effectivement, on a des avions performants, le port du masque et puis la discipline un petit peu nouvelle des passagers aussi. Hein.
Parce ouais, que mais les ça, gens c'est pas gagné. Appris... C'est pas gagné, ah. Là, Baptiste. On a vu ce qui s'est passé sur le Paris-Nice cette semaine. Il y a eu des histoires quand des passagers ont enlevé leur masque, ils ne supportaient pas. C'est l'illustration du fait que voyager en avion aujourd'hui ne se fait plus comme avant. D'ailleurs, Yann Kochnek, vous voyez, vous, prendre l'avion pendant 9-10 heures avec un masque sur le visage
Pour être franc, honnête, non. C'est pas génial. Hein. Et d'accord, sur le vol d'une heure, deux heures, trois heures, mais... Au-delà, ça devient gênant, quoi. Alors bien sûr, c'est obligatoire, oui, il faut le faire, c'est une protection à 95%, mais c'est vrai que ça va pas être génial pour le passager long courrier, hein, de supporter un masque comme ça pendant 9 heures.
Est-ce que dans les aéroports, Thomas Juin, vous constatez qu'il y a une sorte de relâchement avec le déconfinement, les gens portent moins le masque, ils se sentent déjà plus en sécurité, plus en confiance?
Écoutez, non, c'est l'inverse, c'est la situation quand même de confinement qui a marqué tout le monde, nous sert aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même, de façon générale, même si vous citez des exemples de personnes, vous aurez toujours dans un public toutes personnes qui vont pas respecter les choses, mais globalement, moi, ce que je note depuis la réouverture, c'est que les personnes se présentent globalement avec des masques. Nous, on est préparés, bien sûr, avec des appoints dans les aérogares. Donc, cet élément de masque, en effet, est actuellement essentiel et devrait, je l'espère, nous permettre assez rapidement de limiter cette distanciation physique qui, je pense, lorsqu'on aura une situation plus stabilisée, je l'espère, nous permettra de fonctionner dans des aérogares à la normale.
Donc le masque, vous écoutez. Oui. Allez-y, je voulais faire une transition parce qu'il nous reste beaucoup de choses à voir, ouais. Sachant qu'il est déjà 19h49, que vous écoutez RFI et que c'est le débat du jour.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
L'IATA, qui regroupe quasiment toutes les compagnies aériennes mondiales, prévoit 419 milliards de dollars de perte de chiffre d'affaires pour cette année. Perte nette de 84 milliards pour les compagnies en tant que telles. Des chiffres qui donnent le tournis. C'est tout le problème du redécollage et de l'aide qu'il faut fournir au redécollage. Le transport aérien est un des secteurs aidés par le gouvernement avec le recours au chômage partiel pour ce qui est de la France. Il y a eu donc la coordination du dispositif sanitaire. Et puis il y a donc ces gros sous à la mesure des pertes d'Air France depuis le début de la crise sanitaire. Tenez-vous bien, la compagnie a perdu 1 million d'euros toutes les heures. C'est du jamais vu. Est-ce qu'on peut se relever pour Air France et pour d'autres compagnies d'une telle situation? Je vous pose la question à Alain Battistier qui connaissait bien la situation des 30 compagnies aériennes qui se retrouvent dans la Fédération nationale de l'aviation marchande que vous présidez.
Oui, la situation est évidemment extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à l'absence de chiffre d'affaires depuis maintenant plusieurs mois. Et face à ça, nous avons des charges qui continuent de courir, les avions, l'entretien des avions, parce que même s'ils sont immobilisés au sol, il y a de la maintenance préventive, il y a de la maintenance dite calendaire qui doit être faite. Évidemment, le personnel qu'il faut conserver, qu'il faut continuer d'entraîner pour pouvoir redémarrer. Alors maintenant, nous sommes rentrés dans une phase un petit peu plus compliquée qui est le redémarrage. Pourquoi? Parce que pendant l'arrêt total, on savait compter nos pertes très exactement. Maintenant, le pari pour les 6 mois qui viennent, et on n'ose même pas se projeter pour l'année prochaine, c'est de savoir à quel moment on va retrouver un petit peu de profitabilité pour chacun des vols qui sont opérés. Donc oui, c'est un redémarrage lent, très progressif, très coûteux, avec le danger, c'est de ne pas perdre de compétences, donc de ne pas licencier bêtement des gens dont on aura besoin ou dont les compétences sont précieuses. Et puis bien sûr, notre ADN, c'est la sécurité, c'est-à-dire d'assurer et d'être certain à tout moment que nous opérons les avions dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec un personnel formé, entraîné et des avions en état parfait.
Parce que je donnais des chiffres. Je vais donner des chiffres à l'exemple, à l'instant, pardon. Je parlais d'Air France, je ne sais pas si je me suis trompé, c'est 1 million d'euros de pertes toutes les heures. Peut-être ai-je dit tous les jours. Pour ce qui est des aéroports, il y a un manque à gagner de redevances, c'est-à-dire ce que vous paye une compagnie à chaque fois que son avion se pose. Et puis il y a aussi tous ces duty-free pardon, qui sont fermés. Vous avez des chiffres à nous donner, Thomas Juin, qui présidait donc l'Association des aéroports français et francophones?
Des chiffres, si on regarde à l'échelle française, c'est plusieurs milliards. Vous avez qu'ADP a annoncé un manque à gagner de 2,5 milliards. Et ça, c'est les prévisions qui sont faites aujourd'hui. Donc, vous pouvez doubler pratiquement sur l'échelle de la France. Et là, je parle que des exploitants d'aéroports. Si vous prenez tous les partenaires qui sont présents sur les aéroports, l'écosystème, c'est donc plusieurs milliards qui partent. Et donc, c'est un manque à gagner considérable. La prévision de trafic que l'on fait sur la France, c'est au moins moins 60% de trafic cette année. Donc, autant vous dire qu'on a vraiment un séisme.
Est-ce qu'il faut s'attendre à des fermetures d'aéroports, sachant que certains en région vivotaient déjà jusque-là?
Alors, vous savez, un aéroport est toujours n'a pas forcément un objectif premier de rentabilité. Tout dépend de son niveau de trafic. Mais sur les régions où vous avez des petits aéroports, ils ont avant tout un rôle de service public. Et ça va dépendre de la volonté de la région dans ces cas-là. Mais un aéroport peut bien sûr faire faillite, naturellement. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont prévues par le gouvernement français pour permettre avec le chômage partiel de tenir, pour financer les missions régaliennes, sécurité, police. Mais au-delà de ça, la trésorerie des aéroports s'assèche à grands pas. Et donc, vous avez en effet des discussions qui vont intervenir entre les aéroports et la puissance publique pour pouvoir tenir. Et pour vous répondre, ça dépendra, j'ai envie de dire, de la capacité de reprise. C'est essentiel. Le plus dur n'est pas passé. Le plus dur est à venir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une preuve forte, les coûts vont revenir très fort. Et donc,
La preuve, Thomas Juin, c'est qu'Air France, selon le journal Les Échos, devrait supprimer 8 à 10 000 postes dans les 2 ans qui viennent, soit 15% de son effectif, parmi lesquels 2 000 hôtesses et stewards, 400 pilotes, des chiffres qui n'ont pas été confirmés par la compagnie ni par le gouvernement. Mais ça montre bien que le pire, j'allais dire, est à venir d'un point de vue social.
Écoutez,
Yann Kochnek, peut-être, là-dessus,
oui,
puisque vous avez suivez tout cela de très près.
Oui, enfin, comme M. Juin et M. Battisti.
Bien sûr.
Oui, mais ils n'ont pas le choix. Je veux dire, si vous voyez leurs concurrents, c'est la même chose. Enfin, quand vous êtes confronté une chute brutale de 90% de votre activité, avec l'espérance que cette activité se relance, redémarre à hauteur de 35 à 40% pour la saison d'été, c'est-à-dire pour juillet-août, il est évident que l'ampleur du choc est telle que vous n'avez pas d'autre choix que de procéder à des mesures drastiques. Et en effet, une compagnie comme Lufthansa, elle, dans son plan de flotte, enfin, là, je parle du groupe, c'est 100 avions de moins. Ils sont à 760 avions, tout modèle compris, à la fin 2019. Ils prévoient d'être à 660 en 2023.
Et supprimer 22 000 postes, c'est-à-dire
alors,
plus du double qu'à France.
Si vous mettez 100 personnes, pilotes, mécanos, PNC, enfin, et tous les personnes qui tournent autour de l'avion, autour de l'exploitation de l'avion, bon, ben, vous arrivez vite à des chiffres assez importants.
La Fédération nationale de l'aviation marchande, je voudrais qu'Alain Battisti nous donne ces chiffres. Est-ce que vous avez des projections? On a parlé d'Air France, mais est-ce que vous avez des projections sur l'ensemble des compagnies aériennes françaises dans les suppressions d'emplois qui sont à venir?
Non, on n'a pas véritablement aujourd'hui consolidé de chiffres de suppression d'emplois. Certaines compagnies ont fait le pari de maintenir l'emploi. C'est le cas par exemple de Air Caraïbes ou de French Bee, moyennant une modération salariale et même une baisse de salaire de 10% pendant 2 ans, mais l'emploi est garanti. D'autres vont devoir certainement licencier de 10 à peut-être 20% ou 25% de leur effectif. Mais il n'y a pas de consolidation globale sur le secteur de ces chiffres, donc pour l'instant il serait prématuré de donner un bilan, mais il est évident que Air France, qui concentre à peu près 65% de l'emploi salarié de l'aérien, est évidemment la compagnie phare, et les chiffres que vous évoquez ne sont pas encore confirmés, mais je crains que ce soit les ordres de grandeur effectifs.
Vous parlez d'Air France, il y a cette aide de 7 milliards d'euros sous forme de prêts directs et de prêts garantis par l'État. Ça, c'était une annonce faite avant les suppressions d'emplois dans la compagnie. Et à l'époque, le ministre de l'Économie avait dit « Ok, on prête de l'argent, mais cette aide est conditionnée. Le gouvernement veut que les compagnies travaillent à rendre leurs avions moins polluants. Il nous reste 3 minutes, j'aimerais votre avis là-dessus à tous. » C'est-à-dire que c'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans la manière de faire voler des avions. Peut-être d'abord Yann Kochnek, derrière Cosmos.
Oui, enfin c'est plutôt de l'affichage politique, c'est très tendance. Donc il faut tenir compte... Non, je veux dire c'est très tendance de la part des gouvernements en place. Il faut tenir compte d'un courant vert dans le cadre d'alliances politiques en cours ou à venir. Mais aussi ne pas négliger quand même au niveau des jeunes générations une réelle prise de conscience sur l'avenir de la planète. Et ça, en effet, le transport aérien doit prendre en compte cette nouvelle génération.
Elle le fait déjà puisque tous les quadri-réacteurs sont envoyés à la casse. Air
oui,
France
oui, bien sûr.
Ses A380,
mais il faut continuer,
Corsair,
il faut continuer.
Ses 747.
Alain
Battisti, vous partagez également cet avis. Il faut que les réacteurs soient toujours plus économes en kérosène et peut-être un jour les remplacer par autre chose, de l'hydrogène ou de l'électrique ou du biocarburant.
Oui, clairement oui. Enfin, le progrès technique, la science, c'est l'ADN des compagnies aériennes. Nous sommes une industrie de progrès. Et il faut garder en tête que le carburant, et donc la consommation de carburant, et donc l'émission de CO2, c'est le premier poste de dépense d'une compagnie aérienne. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, elle est comme un écologiste, elle est obsédée par sa consommation de carburant. Et elle est obsédée par la réduire, et donc réduire l'empreinte carbone. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs années, on s'était engagé de façon très très forte sur des engagements de baisse de consommation et de réduction d'émissions. Donc on continue, et il est clair que si on a des progrès technologiques disponibles avec du matériel certifié, on se saisira immédiatement de ces innovations pour continuer notre activité.
Et puis il y a aussi des aéroports qui s'engagent. Malheureusement, le temps nous manque. Je voudrais juste saluer Thomas Juin, puisque lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit que les aéroports s'engageaient pour une neutralité carbone et que l'aéroport d'Abidjan était un très bon élève en la matière. Ce qui nous revient, ce qui nous ramène à cette question que je posais tout à l'heure sur la reprise du trafic pour ce qui est de l'Afrique. On n'a pas eu les réponses. Et je pense que du coup, on peut imaginer un autre débat du jour sur ces questions et sur le transport aérien en Afrique avec toutes ces thématiques dont on vient de parler ensemble. Merci à vous tous pour avoir participé à ce débat du jour sur Radio France Internationale. La marche du monde.